Alors les grands, est-ce que nous aussi, dans la joie, vous pouvez louer le Seigneur. C'est ça qu'on veut faire. Et la prédication portera ce matin sur une nouvelle identité en Christ, ceux qui ont connu Jésus-Christ. Elle s'appuie sur l'enseignement qui est donné par David Niblack, le directeur de l'Institut biblique de Genève, lors d'une conférence aux jeunes. Et autour du passage, peut-être 2 Colossiens, Colossiens 2, versets 6 à 15. Et avant, je pensais, même si moi, vous me voyez pas tout le temps, j'ai quand même une certaine logique dedans. La vie chrétienne est un peu faite de 3 choses. Peut-être au tout début, c'était la toute première fois, en mars 2020, la prédication, c'est « Venez aux eaux, vous tous qui avez soif », Ésaïe 55. C'est la soif de Dieu. Est-ce qu'il faut déjà avoir soif de Dieu? L'homme a-t-il soif de Dieu? Intrinsèquement, il est là. Et ce qu'on a vu la dernière fois, c'est Jésus, un véritable ami. C'est Jésus qui vient à nous. Dans ce passage, pour ceux qui étaient là, si vous vous souvenez, c'est Jésus veut t'appeler son ami. Et c'est pas toi qui as choisi. Jésus dit, aujourd'hui, je vais venir manger chez toi. C'est Zachée. Et ta vie va changer. Et Zachée, sa vie. C'est pas vous qui avez choisi. Jésus est venu. Donc, je ne vais pas revenir dessus, mais pour donner la logique. Ça, c'est la partie, je découvre Jésus, c'est la repentance. La découverte de l'évangile et la repentance. Ils se sont repentis. C'est le témoignage de celui qui a précédé Jean-Baptiste. J'ai rencontré. Je ne veux plus être le même. Et c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui, qui est le cœur de la chose, qui est difficile à comprendre, c'est une nouvelle identité, notre conversion, notre changement. Or, ce changement est plus profond si vous avez accepté Jésus-Christ, c'est le changement de notre identité. C'est très fort. Et après, il y a une troisième partie, parce que la plupart qui sont assis sur ces bancs, connaissent Jésus depuis 10, 20, 30 ans, c'est la marche avec Jésus, c'est la croissance et la sanctification. Et je ferai une série de prédications sur justement ce que nous enseigne l'apôtre Pierre sur grandir. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un fondamental qui est très important, donc une nouvelle identité. Je vous propose de lire Colossiens 2, versets 6 à 15. Je ne veux pas vous redemander, je sais que Jean-Louis l'a fait, de prier qu'il a. Je ne veux pas que ce soit la parole qui nous parle en disant, c'est si Alain, tu veux reprendre vraiment sur la parole qui parle à mon cœur en disant ces versets, sur l'enseignement donc de l'apôtre Paul à l'église de Colosse.
Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Merci parce que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre pied, Seigneur. Et tu es la lumière, Seigneur, tu es venu sur cette terre, Seigneur, pour nous éclairer, Seigneur. Et merci pour ta parole encore, merci pour Marc qui va. Alors c'est ta parole ce matin, Seigneur, que nous puissions être à l'écoute, Seigneur, que nous puissions nous taire, et écouter ce que tu vas nous dire ce matin, Seigneur. Et nous te bénissons encore pour ta parole, Seigneur, en ton nom et pour ta gloire. Amen.
Amen. Donc lisons cette parole, et donc cette partie de Colossiens 2, les versets 6 à 15, qui vont s'afficher. Ainsi donc. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, en s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui qui est le chef. Alors, je ne sais pas quel verset, c'est le verset 10 après. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Amen. Et voici la parole de Dieu. L'apôtre Paul va s'adresser à cette église de Colosse, je vous encourage à lire avant, qui est bien dans la foi, mais il veut les mettre en garde. Et dans cette phrase du verset 6, donc vous faire un but un peu d'enseignement, parce qu'on va reprendre les versets un par un. Parce que c'est des versets pour comprendre ce que Dieu voulait nous dire et ce que Paul veut nous dire. Dans le verset 6, nous avons le résumé de tout le passage. Il est dit, comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez avec lui. Voilà le mot d'ordre pour les chrétiens. Pour se marcher avec lui. C'est ça le mot d'ordre. Ça, c'est pour ceux qui l'ont connu. Il faut déjà l'avoir rencontré. C'est pour ça que je vous ai rappelé avant la rencontre avec Jésus. Mais si vous avez rencontré Jésus, il nous a dit marcher. Est-ce que tu sais faire ça avec ton prénom, Marc? Oui. Est-ce que tu sais dire j'ai accueilli le Seigneur Jésus-Christ et maintenant je marche avec lui? C'est ça, mettre tes mots dedans. Donc, là, accepter Jésus-Christ, je dirais c'est facile, pas forcément parce qu'il y a la repentance, mais en général, c'est peut-être la partie qui est plus facile, c'est un bouleversement dans votre vie. Il faut avoir ce grand bouleversement de la repentance. Et comme on l'a reçu, mais par contre, marcher. Qu'est-ce que ça veut dire marcher avec lui? Il va un peu nous occuper, c'est toute notre vie en fait, marcher avec lui. C'est ça qu'il nous est demandé. Alors, marcher, on peut comprendre marcher simplement du verbe marcher. Si on regarde dans l'Ancien Testament, quand ils utilisent le verbe marcher, en général, c'est suivre ou vivre. C'est vraiment l'idée, tout ça, de faire un petit pas, un après l'autre. Parce que notre vie quotidienne sur Terre, elle est quand même faite plutôt de petits pas. On ne vit pas toujours des moments très forts. Souvent, c'est avec Dieu qu'on les vit. Mais on vit souvent la plupart de notre vie. Et pour vous, pour moi, c'est. Alors, si on est à Paris, on dit métro, boulot, dodo. Vous connaissez cette expression. Mais c'est se lever, c'est manger, préparer le repas, aller au travail, et toutes ces choses concrètes que l'on vit, réparer la voiture qui est tombée en panne, et toutes ces choses, et faire les courses. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas marcher avec Jésus à ce moment-là? Non, c'est marcher avec lui. Donc ne nous trompons pas, la plupart de notre temps, marcher, c'est vivre. Marcher, c'est vivre avec Jésus. Donc ça veut dire que tout métro, boulot, dodo, vit tout en lui. Nous touchons là sans doute une des réalités les plus simples, mais les plus profondes de la foi chrétienne. Et de la conversion. Être chrétien, c'est être uni à Christ, uni à Jésus, et c'est cela, être uni à Jésus. Être uni à Jésus. Voilà notre seule aspiration, comme notre frère, notre prière, toujours plus proche de Jésus. Je veux prendre ma place en Christ, à chaque instant. Eh bien, ça, c'est votre nouvelle identité. C'est notre nouvelle identité. C'est important de comprendre cette affaire d'identité. C'est vraiment une nouvelle identité. L'identité, on peut la définir en général. En fait, c'est très dur à définir par rapport en général aux autres, aux communautés, aux amis. De quel groupe? Souvent, c'est le groupe qui nous accepte. Dans le travail, dans la famille, dans l'église, je pense aux enfants, dans les copains. Mais en fait, on recherche une communauté qui nous accepte parce que c'est l'identité, on cherche quelque chose. Mais la question, c'est comment on se voit soi-même. C'est ça l'identité. Et comme on ne peut pas se voir, il nous faut un miroir. Et c'est pour ça que je vous ai apporté un miroir. En fait, vous ne pouvez pas vous voir. Vous ne vous voyez pas. Vous cherchez désespérément dans les autres ce regard. Vous apportez un miroir, je me regarde dans ce miroir. Mais qu'est-ce qu'il a, ce miroir? Le miroir que nous avons. Hein? Il est cassé. Et il était cassé par quoi? Par le péché. Le vrai miroir, à un moment, vous savez, dans la Bible, il est dit, on se voit de façon imparfaite. Nous nous voyons de façon imparfaite. Mais le miroir a été cassé par le péché. Et donc, les bouts que vous voyez dans les communautés, dans les autres, c'est des petits bouts de marque. Peut-être un peu dire, ah oui, il est gentil, ou il est méchant, ou il s'énerve. Oui, bien. Vous voyez, on cherche notre identité. Mais Jésus nous donne une nouvelle identité. C'est comme on ne se voit pas une fausse. Donc, pardon. Eh bien, on cherche notre identité. Et en fait, les petits bouts que vous voyez, c'est ce que les autres vous projettent. Ce que les autres vous projettent n'est pas votre identité. Ce que les autres vous projettent n'est pas votre identité. Jésus peut vous donner une nouvelle identité. Dans la vie, on est confronté à ces miroirs. Et vraiment, j'ai tout d'un coup senti. Je ne sais pas pourquoi ils sont sortis, je pense aux enfants, aux adolescents. Parce qu'on ne réalise pas que la plupart ici sont mûrs, adultes. Vous vous êtes construit une identité, quand même, dans ce monde. Mais les enfants, ils cherchent leur identité. Les enfants, ils la cherchent autour d'eux, dans ce qu'ils font, dans les groupes, dans les mauvaises influences. En réalité, ces miroirs, ce sont les gens qui nous influencent autour. Si nous n'avons pas solide identité en Christ, ce sont les autres qui nous influencent. En fait, dans la vie, c'est la culture qui t'influence. Ce sont des bouts de miroir cassés que tu as. On voit des imperfections, des bouts de ce que disent les choses, de ce que te dit ta famille. Alors, des gens, ça se passe bien. Des gens, très mauvaise image, la famille. C'est pour ça que je voulais vous sensibiliser. Attention au miroir. Parce que chaque individu veut construire son identité. Et nous le savons par des vies brisées. Et Jésus est venu restaurer les vies brisées. Nos vies, elles sont toutes maintenant brisées. C'est le morceau de miroir. Parce que Jésus veut te donner le vrai miroir. Eh bien, la bonne nouvelle de l'Évangile, ce que nous a amené à l'accepter, c'est que pour résoudre ce problème, Dieu est venu en Jésus-Christ parce qu'il a conscience que notre identité est cassée par le péché. Alors il est venu parce qu'il a dit, il a eu compassion, parce qu'il a compassion, parce qu'il fait encore grâce. Il a encore le temps de venir à lui. Et il veut maintenant que nous soyons unis à lui pour avoir une nouvelle identité. Oui, vous allez regarder encore votre miroir, le petit bout, ce que vous disent les autres, ce que vous dit l'Église, ce que vous dites. Mais ce n'est pas ça. Regardez-vous en Jésus et comme Jésus voit l'identité en Jésus. Comme Christ, il est venu. Il a vécu une vie parfaite pour toi, pour moi. En fait, c'est lui qui a vécu la vie parfaite et t'invite à mettre tes pas dans sa vie parfaite. C'est pas toi, c'est son identité. Mais c'est mettre ses pas dans sa vie parfaite. Et lorsque je suis uni à Christ, marcher en Christ, c'est comme si on pouvait un miroir parfait. Le miroir parfait. Tel que je suis, et ce que dans ce miroir, Dieu voit Jésus. Il voit l'homme parfait en toi. Il voit la femme parfaite. Il vous dit, chacun d'entre vous, Dieu est en train de vous construire comme un pilier à votre rythme. De l'Église, de la grâce de Dieu, comme témoin. Nous soyons avares, je vous parlais de la croissance, mais Dieu veut faire de vous des piliers du temple, de son temple, pas du temple des hommes, pas du temple de l'Église, pas le temple de religion, le temple de Dieu, du Dieu vivant. Jésus nous donne donc cette identité nouvelle. Et c'est sans doute pour cela pas trop étudié, mais je vois que Dieu donne souvent un nouveau nom à ceux qu'il appelle. Abraham, 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 Simon, Pierre, Saül devient Paul. Vous voyez que cette identité du changement, tu seras Paul, tu seras Pierre, et sur Pierre, tu vas bien dans l'Église. Dieu, à ce moment de ta conversion, change ton identité. Alors, comment on fait ça? En fait, c'est peut-être facile à dire, mais c'est ça, et ce fondement-là, il faut bien le comprendre. C'est ce que le texte dit, on revient sur les versets 6 et 7. Comment on marche en lui? Tout comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données. Et on revient toujours à cette question de croissance et d'obéissance, si vous vous souvenez. Je vous appelle, mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Cette question d'obéissance. Le premier verbe, enraciner, nous fait penser à un arbre. Elles sont généralement invisibles, elles poussent sous terre et elles donnent quoi? Eh bien, elles donnent des feuilles, elles donnent des branches, elles donnent des fruits. Et ça, il se trouve que j'avais fait une prédication sur le psaume 1. Donc, je vais juste relire le psaume 1. C'est bien ce que nous enseigne le livre, les livres des psaumes, le premier livre, il nous dit bien ça. C'est quoi le secret? Il nous le dit là. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près des courants d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Alors je ne vais pas refaire dessus, mais dessus, quand il est dit étant enraciné, c'est ça qu'il nous faut faire. Et enraciné dans quoi? Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et il fuit les méchants, il a conscience du mal, du péché, il comprend dans le miroir, parce qu'il veut travailler cette nouvelle identité. C'est vraiment le fondement. Je sais peut-être qu'il nous paraît trop basique, mais si nous ne revenons pas à ça, comme de notre saut, nous ne savons pas nous enraciner. Il y a enraciner, et un deuxième mot, fonder. Fonder, ça vient du terme de bâtiment, et là, dans la Bible, Jésus, dans des paraboles, l'utilise aussi, notamment, de bâtir sur roc, qu'on utilise souvent, Matthieu 27, 24, 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et la suite de la pluie, les torrents sont venus, les vents soufflés se sont jetés. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée. Il faut se fonder sur le roc. Et c'est quoi le roc? Il le dit là, c'est pas seulement les paroles, c'est mettre en pratique. Alors, je te dis, peut-être on ne peut pas mettre tout en pratique, mais mettez en pratique un petit à petit. C'est des petits pas. Dieu ne va pas vous demander l'impossible, vous êtes dans votre croissance. Mais il nous faut progresser, comme disait Hélène tout à l'heure, cette croissance. Parce que pour avancer dans l'unité avec Christ, donc dans notre vraie identité. Et bien, la conséquence de tout ça, c'est dans la suite du verset. Il est dit, regardez la fin du verset. Il est marqué. Et abonder en action de grâce. La conséquence, c'est que nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu fait. L'action de grâce, abonder. J'aime ce passage, j'ai bien cette découverte, cette nous avons été faits pour célébrer la gloire de Dieu. Nous devons abonder en action de grâce. Oui, notre vie est imparfaite, maintenant, elle a changé. C'est pourquoi, lorsque ma vie est en Christ, elle est caractérisée par une reconnaissance profonde. Car je sais que malgré tous les miroirs autour de moi qui me déforment, qui ne me voient pas tel que je suis, qui me poussent vers le péché, j'ai une vraie nouvelle identité en Christ. Personne ne peut vous l'enlever. Personne ne peut vous l'enlever. C'est toi qui te l'enlèves. C'est toi qui oublies ton identité. C'est ton identité en Christ. Il y a deux pièges qu'on a en regardant le miroir. Il faut essayer d'éviter. Il y en a un, c'est le piège de l'orgueil. On va se dire, bah, moi, j'ai la vie éternelle, je suis supérieur parce que je connais Jésus. Alors, c'est pas à faire. Dieu nous dit dans l'humilité et de compassion avec les autres. Et l'autre, soit d'être dans la honte en disant, ben oui, mais je ne suis pas parfait. Je pense à mes fautes, je vois tout ce qu'il y a de mal. Avec ce miroir brisé, il faut simplement dire, je suis reconnaissant. Parce que j'étais comme ça, brisé. Mais maintenant, j'ai un nouveau miroir. Et c'est ce miroir, dans ce miroir que Dieu me voit par Jésus-Christ. Sauvé, racheté, accepté dans la famille de Dieu. Accepté dans la famille de Dieu. parfait aux yeux de Dieu au travers de Jésus-Christ. Waouh! Il nous faut donc être enracinés et fondés en Christ. Voilà qui vous êtes, qui vous avez rencontré, si vous avez rencontré Christ, si vous l'avez accepté et si vous êtes engagé à le suivre. Vous êtes une nouvelle création, plus sous la condamnation. C'est pour ça que je choisis, parce que peut-être de prédication théologique, mais le chant dit tout. Je suis une nouvelle création. Il le dit. Si un homme naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Dieu a fait de nous une nouvelle création. Il dit même Jésus-Christ, le premier de cette nouvelle création. C'est vrai, hein, c'est vraiment incroyable. Si nous n'avons pas réalisé ça, nous n'avons pas fait ce pas. C'est maintenant que l'on pourra, je veux dire, réaliser cette nouvelle identité. Il n'y a rien. Il n'y a rien de plus fort. C'est cela qui est le cœur de tout. Et alors, Paul nous met en garde. Paul nous met en garde contre des pièges, contre des pièges au verset 8. Malgré tout, nous chrétiens, sommes soumis à des pièges. Et c'est pas parce qu'on a une nouvelle identité qu'il n'y a pas des autres miroirs qui nous aident à nous rappeler soit notre ancien, soit tout ce qui est cassé. Faites attention, verset 8, à quoi de vous faire attention? À ce que personne ne vous prenne au piège par la philosophie ou par des tromperies sans fondement. Bien sûr, celui qui n'a pas Christ va nous ramener à ces philosophes. Ces philosophes qui influençaient le monde à l'époque, c'était très important, ça serait plutôt nos jours les influenceurs, les médias, les politiques, les messages, les religieux, on s'en rend même pas compte, mais je le sais, on est influencé en permanence de ce que le monde nous dit, la culture nous dit, vous le savez bien. Et tous ces gens vont nous promettre des choses merveilleuses. Mais notre identité en Christ va nous donner bien au-delà de tout ce que les médias, tout ce que les politiques, c'est pas le plus connu pour être, les politiques voilà, sont là pour promettre, évidemment que ça va aller bien au-delà de tout ce que les religieux peuvent promettre. Et donc, ce que recherche l'homme, il nous est donné beaucoup de façon plus forte dans la nouvelle identité en Christ. Au verset 9, on a par exemple le mot plénitude à nouveau. Car en lui habite toute la plénitude de la divinité. La plénitude. Alors, humainement, on va chercher des techniques pour chercher. Et l'homme est comme ça. L'homme recherche la plénitude. C'était vrai à l'époque il y a 2000 ans, et maintenant on recherche la plénitude. Alors, on a changé d'époque. À l'époque, c'était par la philosophie. Même par certaines religions. Aujourd'hui, ça va être par certaines activités de centrer sur toi, de pleine conscience. Je ne suis pas forcément con, je ne vais pas venir là-dessus, mais pleine conscience de soi. Mais on va centrer l'homme sur lui pour chercher la plénitude en disant tiens, fais ça, fais ça, fais ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rechercher son bien, mais il ne faut pas le chercher au bon endroit. Tu ne pourras pas trouver la plénitude. Pareil, la puissance, au verset 10, c'est un autre excès. C'est vrai qu'on a vu arriver un petit peu aussi dans l'Église. La puissance, les gens vont te permettre les techniques. Tu es fatigué du combat contre le péché, parce que oui, c'est un combat. Et les gens vont dire, tu peux aller plus loin, alors viens chez nous. Nous, on va te montrer une technique où tu vas avoir une puissance encore plus grande, en faisant ceci, en faisant cela. Attention. Oui, à l'époque, c'était important, parce qu'à l'époque, les gens étaient très conscients du monde invisible. Dans nos cultures occidentales, moins, j'ai l'impression qu'on a fait plus. Mais, du coup, ce monde invisible nous fait peur. On veut contrôler, on donne donc des techniques qui peuvent être de tout type, mais y compris religieux. Mais non, il fallait contrôler ces puissances. Mais le message fondamental, c'est que nous avons la puissance en Jésus-Christ. Ce que nous devons rechercher, ce n'est pas des nouvelles techniques. Nous devons rechercher d'être plus proche de Jésus, plus proche de notre identité en Jésus. Parce que Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ce Dieu que nous avons en nous, ce n'est pas une partie de Dieu que nous avons en nous, c'est la totalité. On peut dire, ah non, on n'a que 10, 20, 30%. Non, il est bien écrit ici, en Jésus habite toute la plénitude de la divinité. En Jésus, il y a toute la plénitude. Parce que Dieu est une personne. Et il est venu dans la personne de Jésus. on a Dieu, on a 100% Dieu. Et si je suis connecté à Christ, j'ai tout. Si je suis connecté à Dieu, c'est dans toute sa personne. Il n'y a rien de plus grand, rien de plus beau. C'est ça la révélation. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu va tout faire pour nous, mais nous avons tout en Jésus. Nous avons tout en Jésus. Je crois que je vais l'écourter ici, et elles sont timing. Je vois. Et peut-être je le ferai, ça sera la suite pour l'éducation, pour qu'on reste sur ce fondamental. Parce que je voudrais faire chacun des versets. Du coup, c'est comme je veux faire cette prédication. Je préfère qu'on absorbe. Nous avons tout, je vais rester sur 10. Mais regardez ce que nous avons tout, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Donc nous ne devons pas avoir peur, parce que nous avons, mais non seulement notre ami, mais notre identité. Et lui, il est le chef de tout cela. Nous n'avons pas cherché une puissance par un autre pouvoir magique ou manière religieuse de le faire. Nous l'avons en Christ, nous avons la foi en Jésus-Christ. Ce que tu vois là, c'est que toutes les ressources du chef suprême, qui commande à toutes les principautés du monde visible et du monde invisible, nous fait plus peur. N'ayons pas d'inquiétude. Vous avez tout pleinement en lui. Il est le chef de toute principauté. Ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'il va vous donner tout pouvoir sur terre à toi, dessus, mais lui, il a tout pouvoir. Je peux être dans la tranquillité, je peux lui remettre cela. Toutes ces choses, je vais lui remettre. On va lui remettre à lui. Non par la puissance d'une personne, d'un pasteur ou de quelqu'un. La puissance de Jésus-Christ. Nous voulons vivre la puissance et la gloire de Dieu dans l'Église. C'est ceci à quoi est appelée l'Église, mais la puissance de Jésus-Christ. Vivant, ressuscité. C'est cela, sans cela, notre foi est vaine. Si vous croyez qu'il est vivant, ressuscité, il est au-dessus de toute principauté, toute chose de ce monde, malgré les difficultés, malgré les souffrances. Alors, même s'il ne nous donne pas ce que l'on souhaite à cet instant, il en a la capacité. Et parfois, c'est lui qui décide même que ce n'est pas pour l'instant. Il nous laisse patienter, comme le fait avec Paul, il nous dit, voilà, ma grâce te suffit. C'est lui qui est aux commandes. Il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et en fait, je vais garder la suite, c'est de justement notre foi, mais juste en disant, juste en affichant ce qui est écrit dans ce passage 8 fois. Être chrétien, c'est être uni. Donc ce que je voulais, c'est Jésus plus rien égale tout. 8 fois dans ce petit passage, je continuerai à détailler dans notre prédication, ce message revient. On verra plus, je voulais monter sur la puissance, sur la plénitude. Mais être chrétien, c'est être uni à Jésus-Christ. Dans cette nouvelle identité, vous avez la plénitude, la puissance. Et c'est cette équation un peu fameuse en théologie. Jésus plus rien égale tout. Je veux juste réfléchir à ça, qui ne me permettra pas d'enchaîner la question. Jésus plus rien égale tout. Le plus rien, ça veut dire qu'il ne faut pas rajouter quelque chose. En tant qu'homme, on a envie de rajouter quelque chose. On a envie. C'est très très dangereux. Et vous le savez que beaucoup de religions ont aussi rajouté des choses. Après, le devoir, il n'y a pas à rajouter. On pense que ça. Non, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est ta nouvelle identité. Il n'y a pas à rajouter. Il n'y a pas à rajouter un rite, quelque chose qui n'était pas là. Si vous lisez un peu, étudiez le Colossiens, vous verrez ce qui se passe. Ils vont rajouter des choses. Ils vont même développer un culte. C'est pas trop dit là, mais ils commencent à développer un culte aux anges. Je ne veux pas faire parallèle parce que toutes les religions, y compris protestantes, évangéliques, ont rajouté, ont fini par rajouter des rôles anciens, c'est Jésus plus rien égale tout. L'autre danger, c'est aussi d'enlever des choses, je ne veux pas trop prendre un exemple pour être critique, mais on peut dire, oui, mais on prend la parole, mais pas, il y a un bout qui nous gêne, on ne prend pas. C'est Jésus, mais c'est tout ce que dit Jésus. Non, mais moi, cette partie, voilà. Non, non, d'une chose qui a été une tendance vraiment protestant que j'ai rencontré, tout le monde est sauvé. Je ne vais pas rentrer dans ce débat ici, le salut universel, le salut individuel, mais attention aussi, c'est d'enlever des choses. D'accord ? Enlever des choses qui disent celui qui a Christ a la vie, celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Celui qui a Christ a la vie, celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. D'interprétation. En tout cas, celui qui a Christ a la vie. Avec Christ, vous avez la vie parce que vous avez une nouvelle identité. Donc il n'y a rien à rajouter. Il n'y a rien à enlever. Par Jésus, vous avez la plénitude, vous avez la puissance de Jésus. Lorsque vous avez compris cela, ce que nous dit le verset 2, vous n'avez qu'une chose à faire, être reconnaissant. Être reconnaissant. Louer Dieu pour sa grâce infinie. Il n'y a rien de plus grand que si quelqu'un, il n'y a rien de plus beau qui pouvait nous arriver. C'est cela notre conversion. Vous avez changé votre nouvelle identité en Christ. Il vous a choisi. Et maintenant, votre nouvelle identité. Et maintenant, marchez en lui. Marchez en lui. À Dieu soit toute la gloire pour sa parole et qu'il fait l'être en notre cœur.
Amen.